un peu fait, mais on va aller encore un peu plus loin au cœur de notre sujet. On bénéficie ce matin du regard aiguisé d'un sociologue sur ce monde qui change sous nos yeux, évidemment de façon parfois vertigineuse. L'expérience, on la partage toutes et tous dans cette salle, mais Jean Viard a cette capacité d'analyse qui donne du relief aux faits et puis aux chiffres. Saviez-vous par exemple que les achats de matelas font partie des investissements massifs directement liés au confinement? Et pourquoi est-ce que c'est une donnée intéressante? Je laisse la question. Moi, je pose les questions, hein, je ne réponds pas. Comment envisager l'après-Covid? En quoi le télétravail est-il, bon, c'est peut-être plus classique, mais c'est une question évidemment intéressante, un bouleversement qui va bien plus loin que le bureau. Combien de séparations et de changements de vie en 2 ans et demi? Quelles conséquences? Tous ces éléments conjugués les uns aux autres, comment redessinent-ils nos espaces de vie? On compte sur lui pour nous éclairer en ce début de journée. Merci d'accueillir Jean Viard.
Merci. Bonjour. Bon, je viens souvent dans cette région, hein, parce qu'il m'arrivait même de conseiller le maire précédent de Nantes. Je suis un peu fautif dans le voyage à Nantes. Parce que ce projet, moi j'ai travaillé sur le tourisme avec le maire, avec Jean Blaise, etc. On a d'ailleurs l'année dernière fait encore un grand colloque à Nantes sur l'an zéro du tourisme après la pandémie, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur, comment ça se transforme, etc. Donc c'est une région que je connais bien, à part que j'ai une maison en Bretagne. C'est juste pour vous dire, je suis pas perdu. Et après, bon, évidemment, moi j'étais responsable lycéen en 68, je foutais le bordel quand le maire était en train de naître. Donc il y a un décalage de génération. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on aurait mis le bordel ensemble si on avait eu le même âge, donc nous n'allons pas approfondir sur cette question. Nous nous entendons bien, mais enfin quand même. Bon, non, si vous voulez, on est à un moment, en fait, terrible. Quand vous regardez les attentats, comme le procès de Paris, la guerre en Ukraine, la pandémie, la crise économique, les sociétés ont rarement affronté autant de choses en même temps. On ne sait pas où ça va nous mener. On ne sait pas comment ça va nous aider dans la guerre au climat, enfin la guerre que le climat nous fait. Donc si vous voulez, on est vraiment à un moment de changement qui nous est imposé. C'est-à-dire, au fond, on pourrait dire, les hommes ont fait l'histoire, maintenant c'est la nature qui va faire l'histoire. Et si vous voulez, la période qu'on est en train de vivre, notamment la grande pandémie, nous en fait prendre conscience. Et je crois que de plus en plus, les hommes vont courir après la nature. Parce que c'est la nature qui va faire le réchauffement climatique, les problèmes de, effectivement d'énergie et toutes ces questions. Donc là, il y a tout un changement extrêmement profond. Et si vous voulez, la première chose qu'il faut savoir dire, c'est que toute tragédie est créatrice. Je ne vais pas dire que c'est bien qu'il y ait eu 15 millions de morts de la pandémie. Mais en même temps, si vous voulez, 5 milliards d'hommes ont fait la même chose, en même temps, sur toute la planète, pour se protéger. C'était jamais arrivé. On s'est enfermé chez nous, on a pris des masques, on a fait travailler nos 276 laboratoires, on a trouvé des vaccins. Jamais l'humanité n'avait travaillé ensemble contre un ennemi extérieur. On peut dire que cet ennemi, on l'a généré nous-mêmes, c'est sûr, probable en tout cas. Peut-être des Chinois aussi. Mais ça fait rien que ce soit des Chinois à la nature, de toute façon, c'est un rapport entre l'homme et la maladie. Mais c'est la première fois, et sans doute qu'il restera que ça de notre époque. Dans 200 ans, 300 ans, les quelques hommes qu'il y aura sur la planète, nombreux ou pas, je ne sais pas encore, il y en aura encore. Vous savez, l'homme ne va pas disparaître, mais peut-être qu'il n'y aura plus qu'un milliard d'hommes, que les autres seront morts, ça c'est possible. Mais en tout cas, si vous voulez, ils se rappelleront de cette époque en disant c'est le moment où l'humanité a mené un combat commun pour la première fois depuis toute l'histoire de l'humanité. Et si vous voulez, nous, ça ne nous frappe pas tellement parce que nous, on vit ça, on vit les masques, on vit aujourd'hui, on se demande est-ce que je prends le train, je remets mon... Bah bon, on est dans la contingence. Mais c'est ça qui est écrit. Si vous voulez, 1,5 milliard d'enfants ont été retirés des écoles. 1,5 milliard, avec tout ce que ça entraîne dans les ruptures éducatives. 30 millions de jeunes filles en Afrique ne retourneront jamais à l'école. Tout le progrès qu'on a fait depuis 20 ans en Afrique pour scolariser les filles s'est complètement effondré. On va le payer, parce que ça veut dire qu'on fabrique une génération déscolarisée. Donc il y a tout ça. Et en même temps, on a sauvé avec le vaccin sans doute 20 millions de vies, aujourd'hui, parce que ça va continuer. Et avec les changements de comportement, le fait de ne pas bouger, s'enfermer, le masque, sans doute 100 ou 200 millions de vies ont été sauvées d'après les premières estimations. Ça veut dire qu'on a sauvé, disons, entre 200 et 300 millions de vies grâce à nos actions. Ben, dans l'histoire humaine, ça non plus, on ne l'avait jamais fait. Hitler avait tué 50 millions de personnes, Staline 50 millions, on était dans des chiffres qui maintenant paraissent petits. Et nous, on en a sauvé 200 millions. C'est-à-dire, il fait important de se rendre compte de ça pour comprendre, si vous voulez, l'importance de ce qui est en train de se passer. On vit une rupture des mentalités, une rupture historique. Donc, il y a deux choses qui se passent. Il y a ce qu'on a déjà dit là, c'est-à-dire une accélération des tendances qui étaient déjà là. Le désir de quitter la ville, le MeToo, Greta Thunberg pour faire carte postale. Mais il y a d'autres choses qui sont en train de naître. Celles-là, on les verra après. Vous voyez, en 68, honnêtement, la question des femmes, la question de la nature, j'en ai pas entendu parler. D'ailleurs, les femmes ne servaient qu'à amener le café. Si vous regardez les films de 68 à la Sorbonne, il n'y avait pas de dames qui prenaient la parole. Que l'idée étrange. Mais elles étaient là, hein. Il y avait beaucoup de dames. La période était très gaie, mais pas au niveau intellectuel. Et on voit bien comment ces choses... C'est de là qu'est né, quand même, renforcement du mouvement féministe, qui existait bien des jours d'argent. Au fond, c'est un peu la fin du patriarcat, 68. Mais il y a aussi Vatican II, il n'y a pas que 68, il y a tout ça. Bon, voilà. Donc, mettez-vous ça. Moi, je vous dis, retenez l'idée que 5 milliards d'hommes se sont battus ensemble. Et donc, ça montre que, un, on peut changer de pratique. On peut modifier nos façons de nous déplacer. On peut avoir des choix communs sur la planète, au-delà de nos conflits idéologiques, de nos guerres, etc. Quelque part, si vous voulez, je dirais, on a augmenté nos chances de gagner la bataille climatique. On l'a augmenté. Je ne dis pas qu'on va la gagner, mais on a augmenté nos chances parce qu'on a confiance dans l'idée qu'on peut se battre ensemble. Vous savez, le pays qui fabrique le plus d'ingénieurs écologiques, c'est la Chine. Bien sûr, c'est aussi eux qui consomment le plus de charbon. Mais en même temps, ils sont déjà dans le rattrapage. Il faut faire attention à la Chine. Il ne faut pas la regarder qu'à travers la politique. Ce n'est pas un pays si dangereux que ça, hein. La Chine, parce que c'est un pays qui vieillit très vite. On parle du vieillissement chez nous. Mais le vrai vieillissement, c'est le vieillissement chinois. Et d'ailleurs... ils n'ont pas vacciné les plus de 60 ans. Leur but, c'était de pas les sauver. Ça aussi, il faut voir dans la pandémie. Nous, on a vacciné qui ? Les vieux, les gros et les malades. C'est vrai, les improductifs, quoi. Et en fait, c'est un geste profondément humaniste. Les Chinois n'ont vacciné que les travailleurs. Et quant au régime populiste, ils n'ont vacciné personne. Le taux de mortalité le pire du monde, c'est la Hongrie. La Hongrie, suivie par la Tchécoslovaquie, qui sont les populismes européens, où effectivement, on a eu là des taux de mortalité absolument dramatiques. Donc, il faut faire attention, se rendre compte qu'il y a trois systèmes de valeurs qui sont en train de s'organiser, et que ces trois systèmes de valeurs et la guerre en Ukraine, l'attaque russe, le renforce, vont définir petit à petit trois espaces économiques, où on va petit à petit faire essentiellement des échanges entre nous, ça modifie l'ensemble des règles de la mondialisation, ça casse les chaînes de valeurs. Et rappelez-vous une phrase de Churchill que je cite tout le temps, mais j'aime beaucoup, il disait « il ne faut jamais gâcher une bonne crise ». Il ne faut jamais gâcher une bonne crise. C'est pareil dans un couple que dans une entreprise, etc. Il faut en profiter pour faire neuf, pour repenser les choses. Et si vous voulez, on est tous un peu comme si on avait eu un cancer et qu'on était guéri. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais du temps qui me reste ? Vous avez eu certainement, ou vous, des copains qui ont eu ce genre de situation, qu'est-ce que je fais du temps qui me reste ? Je ne vais pas reprendre tout pareil, le même métier, la même compagne, la même maison, etc. Ou le même compagnon, enfin bon. Qu'est-ce que je fais ? Et la société, elle est dans cette situation. Tout le monde se pose des questions de sens. Les gens ont réfléchi. On n'est pas resté comme des crétins couchés sur notre matelas, même si on l'a changé pour pouvoir en faire des usages multiples. Mais je veux dire, il est clair qu'on a réfléchi. Les entrepreneurs ont réfléchi. Regardez les restaurants qui étaient fermés, vous revenez, ils ont arrangé, ils ont fait de la peinture, ils ont amélioré leur structure. On a créé 1 million d'entreprises l'année dernière en France. Petites, peut-être, mais c'est bien pour ça qu'on ne trouve plus personne nulle part. Alors qu'effectivement, dans plein de métiers, les gens disent, parce que les métiers qui n'ont pas de sens, les métiers qui cassent la vie privée, les métiers où on travaille le soir, le week-end, dans des conditions désagréables, et les gens s'en vont. Ils s'en vont. Et ils préfèrent, pour gagner le SMIC, il vaut mieux créer une micro-entreprise de livraison, d'entretien de fleurs, de soins aux personnes âgées. On gagne le même prix, mais dans des conditions de travail. Et regardez les restos. Il y en a plein qui inventent. Qui ferment 3 jours par semaine, etc. C'est-à-dire tout le monde est en train de se dire comment je protège ma vie privée. Et tout le monde partout, dans toutes les entreprises. Bon, donc c'est ça qu'il faut voir. On est dans cette période de rupture. Alors, qu'est-ce que ça a changé chez nous ? Juste 2-3 chiffres, c'est pas le cœur de mon propos. Il y a 1 million de couples qui ont explosé, sur 15 millions. Il y a 50% des couples de moins de 30 ans qui sont en conflit ouvert. Mais j'ai pas le chiffre d'avant. Parce que le propre des couples de jeunes, c'est que ça se renouvelle beaucoup. Hein. Jusqu'à 25-26 ans, un couple de jeunes, c'est quand même largement éphémère. Donc, je peux vous dire que 50% sont en crise, mais je ne sais pas vous dire combien c'était avant. Hein. Je vous rappelle que 65% des bébés naissent hors mariage et que le devoir conjugal comme le devoir citoyen est une idée ancienne. Aujourd'hui, on est à distance des institutions, on est une société qui est institutionnelle. Hein, puisque 65% des bébés naissent hors mariage, dont 58% ne seront jamais dans une situation maritale. 30% des familles sont recomposées. Il faut toujours regarder la vie privée pour comprendre la société, parce que c'est les mêmes valeurs. On vit 700 000 heures. On travaille 67 000 heures. On est arrivé à un ratio dans l'humanité, on travaille 10% de sa vie. Ça veut dire que l'essentiel des liens sociaux se passe en dehors du travail. À l'école, dans le sport, dans le voisinage, dans la proximité, dans les jardins, les jouets des adultes. qui n'a pas son bateau, sa moto, son vélo électrique, son grand écran, voilà, son SUV, je veux dire, tout ça, c'est des jouets. Des jouets ruineux. Mais ça fait tourner l'économie. Supprimer tous les jouets des adultes, l'économie s'effondre. Donc il faut un peu regarder les choses comme ça. 2 ou 3 millions de gens ont démissionné parce que leur boulot n'avait pas de sens. Entre 2 et 3 millions. 2 ou 3 millions ont déménagé, je vous dirai le chiffre plus tard. Parce que si vous voulez, ça change. Regardez dans les 4 millions de résidences secondaires, il y a des dizaines de milliers de gens qui en fait ont inversé leur usage. Il y a énormément de gens qui sont 4 jours dans la résidence secondaire, 3 jours dans la ville. Il y a aussi plein de gens qui ont quitté les villes. Mais ce qui est nouveau par rapport. Un peu différente que des grands ouvriers. Depuis la guerre, les villes littorales se peuplent. Nantes est un bon exemple, La Rochelle, enfin ça a d'abord été Nice, et puis ça a fait le tour, Nice, Montpellier. Après, effectivement, on a eu Nantes, Rennes, et puis après on a eu Bordeaux qui s'est réveillé d'un coup. Et en ce moment, c'est Marseille qui explose. La ville à la mode, c'est Marseille. C'est absolument incroyable, parce que c'est la ville de la drogue pas chère, disons-le gentiment quand même, et du bordel social. Donc ça attire la jeunesse. Oui, mais c'est la première fois que Marseille attire des scientifiques de haut niveau. Cette ville qui manquait de capital intellectuel, donc ça a un effet de développement absolument extraordinaire. Mais c'est un peu le phénomène qu'a connu Bordeaux ces dernières années, mais qui est très différent. Bordeaux, quand même, on n'est plus... Hein, bon. On va pas mélanger avec les Marseillais, quand même. Hein, bon. Donc on est là sur des modèles différents. Vous voyez, il y a tout ça, mais surtout, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a plein de gens qui quittent les villes. Pas dans les régions touristiques, vers Reims, vers Saint-Dizier, vers Amiens, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils vont à 1 heure des grandes métropoles, le long des voies de TGV, là où il y a de haut débit et des bons lycées. Parce que ces gens, ils veulent bien se déplacer, ils veulent vivre autrement, mais ils veulent que leurs enfants restent dans le cycle des bonnes études. Si vous n'avez pas un bon lycée, le développement est terminé. Donc, vous voyez, ils ne vont pas forcément dans les régions touristiques, tout simplement, parce que c'est beaucoup plus cher. Et qu'effectivement, aller habiter à Reims, une maison magnifique avec un jardin, pour la moitié du prix de la boule. Quand je dis la moitié, je suis peut-être un peu pessimiste. Donc, tout ça. Et en même temps, dites-vous que la France est le pays le plus pessimiste de grands pays développés. Notre jeunesse, il y a 42% de nos jeunes qui pensent que l'avenir est positif. Aucune grande démocratie n'a un chiffre inférieur à 50. Dans les pays comme la Chine, on a 90% de gens qui voient l'avenir radieux. En Inde, en Chine, dans tous ces grands pays, on dirait, heureusement qu'ils se développent, mais faisons très attention. On a un pays pessimiste, où on n'a pas confiance dans la décision publique. C'est pour ça que c'est intéressant ce qui se passe en ce moment, et là je suis d'accord avec le maire, on est dans un phénomène où les gens votent avec leurs pieds. Ils changent de boulot sans rien dire, ils quittent le lit conjugal, ils changent de région, et ils se déplacent, ils se réorganisent. Alors moi je dis à mes fils, 1 million de filles libres, profitez-en, mais c'est une période de choses. Et en même temps, il faut dire aux élus, est-ce que vous l'avez anticipé? Ça veut dire combien de centaines de milliers d'enfants qui vont être en période de rupture? Combien de gens qui vont chercher un deuxième logement? Il y a 1 million de familles, il y en a dans toutes les communes. La plupart des maires, ils sont un peu planants là-dessus. Or, c'est un chiffre absolument considérable avec tout ce que ça entraîne. Donc on est une société écrasée par des peurs, la pandémie, le terrorisme, la crise économique, la guerre, et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Alors c'est ça la fond de la question, parce qu'on est dans un processus qui démarre, qui va prendre de l'ampleur, je ne peux pas décrire en entier, ça dépend par exemple la guerre en Ukraine, elle va aller jusqu'où? Est-ce qu'on va savoir l'arrêter avant la guerre nucléaire? C'est pas tout à fait sûr, c'est probable. Est-ce que du coup l'Europe, regardez l'Europe, les États-Unis sont au bord de la guerre civile. On est un peu revenu à la situation de la guerre civile qu'ils ont déjà connue. Les pays totalitaires ne sont pas attractifs. Il y a des milliers, des centaines de milliers de Russes qui quittent la Russie en ce moment. Il y a plein de Chinois qui quittent la Chine. Est-ce que l'Europe va être le pays qui va... L'autre jour, on avait une discussion avec le patron de Renault, on avait un débat dans un club parisien, il me parlait des terres rares, etc. J'ai dit, vous savez, moi, la chose la plus rare, c'est les cerveaux rares. Si l'Europe sait appeler 50 millions de cerveaux rares qui sont dans tous les régimes totalitaires, en disant, nous, on vous offre un mode de vie, on vous offre un territoire démocratique, on vous offre un territoire écologique. Les Américains ont un objectif d'attirer 100 millions de cerveaux, à peu près, dans les 50 ans qui viennent, de façon à être à peu près 400 millions, ils sont 250. Nous, il faut qu'on en attire au moins 50 millions. Si on se referme, vu l'âge de la population, vu notre incapacité, notamment en France, à comprendre les mathématiques, on ne suivra pas le processus. Au pire, on pourrait au moins essayer d'embaucher 50 000 Coréens du Sud, pour qu'ils deviennent profs de maths dans nos écoles, je pense que ça va. Et quand vous voyez les jeunes Ukrainiens en ce moment dans les écoles, ils sont stupéfaits. Les Français ne suivent pas. Eux, ils ne comprennent pas le français, mais en maths, ils flûtent. Je veux dire, attendez, il y a un problème quand même. C'est quand même, la science est un des enjeux majeurs du futur, surtout s'ils gardent les feux. Ouais, il y a tout ça. C'est pour dire, il faut déplacer le regard. Et vous voyez, je finis sur Renault parce que le groupe Renault a fait venir un spécialiste de l'intelligence artificielle américain. Pour se faire entendre, j'aurais pu le faire aussi. Le mec est arrivé avec une chemise à fleurs. Déjà, le président de Renault, vous voyez, c'est un monsieur très chic, c'est l'ancien président de Michelin, c'est un type adorable. Bon. Et le type a chanté toute son intervention. Alors là, tous les grands cas du groupe Renault Monde, le type, il a chanté tout le temps. Et jamais. Donc il les a décalés. Il leur a dit, attendez les mecs, vous êtes à côté de la plaque. Moi, je vous fais en chantant avec une chemise à fleurs. Et c'est ça qui les a marqués, en fait. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a appris de la pandémie pour accélérer un peu? Il y a 9 idées principales. La première, c'est qu'avant la pandémie, on pensait qu'il y avait ou des frontières ouvertes, des chaînes de valeur régularisaient le monde, organisaient le monde, comme depuis 50 ans. Rendez-vous compte qu'il y a plein de grandes entreprises qui n'avaient qu'un seul fournisseur à l'autre bout de la planète. Tellement on était sûr que les guerres et les pandémies, en gros, c'était pour les sous-développés, je le dis gentiment, mais enfin, on ne le disait pas comme ça, mais nous, ça ne pouvait pas nous arriver, quoi. Et puis d'un coup, Shanghai est arrêté, les bateaux ne circulent plus, c'est inimaginable. Donc on a compris qu'il n'y avait pas une opposition entre frontières et l'ouverture du commerce, mais on peut coopérer et mettre des frontières. Et c'est comme ça qu'on a calé la pandémie. Coopération et frontières. Le masque, c'est ça, les 10 km, la promenade, etc. Coopération et frontières, je pense que c'est le nouvel engagement. La deuxième chose, c'est qu'on a compris que le tout économique qui nous a servi à faire tomber le communisme, ne soyons pas naïfs, quand Reagan et Thatcher ont voulu casser le communisme, ils ont imposé des règles de valeur sur la planète pour faire s'effondrer l'économie soviétique. Je ne dis pas que c'était une mauvaise chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, ça a continué au-delà de l'objectif. Mais aujourd'hui, le tout économique est en train de se casser la figure, d'une part pour des raisons de sécurité, toutes les entreprises auront au moins 3 fournisseurs, en Asie, en Europe, en Afrique, et puis aussi, effectivement, parce que l'art de vivre a pris la main sur l'art de produire, parce qu'on est resté chez soi, parce qu'on en a vu les inconvénients, les gens étaient désespérés de ne pas travailler. Quand vous discutez n'importe quel bar, être payé à ne pas travailler, on se rend compte que le travail, c'est du lien social, de la passion, de la création, etc. Alors qu'en France, on dirait que le travail est toujours l'exploitation capitaliste. Ça existe, il ne faut pas dire. Mais il y a aussi le sens du travail en commun, les équipes, etc. Donc, ça a beaucoup changé, le rapport au travail a beaucoup changé. Et donc, l'art de vivre, c'est quel est le sens de mon travail, c'est devenu absolument central, quel est le sens de mon couple, pourquoi on habite là, pourquoi les enfants n'ont pas de jardin pour courir, pourquoi on a fait des enfants d'appartement qui ne peuvent jamais sortir. Paris perd en ce moment 6000 enfants par an dans ses écoles. Avant, c'était 3000. Ça fait 10 ans, c'est très juste. C'est la tendance de quitter les grandes villes, elle est forte. On le voit sur les écoles. Ce n'est qu'un indicateur. Il y en a plein qui n'ont pas d'enfants, il y a aussi les anciens, etc. Mais 3000 enfants, depuis 5 ans, Paris perdait 3000 enfants par an. Maintenant, ils en perdent 12 000. Ça va s'accélérer. Bon, ils n'ont pas distribué les enseignants. C'est très curieux, ils ont proposé de l'envoyer en banlieue où il n'y en a pas. Mais enfin, bon, je ne dis rien sur les cultures politiques de Paris. Donc, si vous voulez, il y a tout ça. Mais surtout, ce qu'on a appris, c'est que Descartes avait tort. L'homme n'est pas comme maître et possesseur de la nature. Ça a été une période historique de l'humanité. On a amené la nature au-delà de ce qu'elle était capable d'ingurgiter. Et maintenant, c'est la nature qui fait notre histoire. Et la question, c'est, est-ce qu'on va savoir continuer à organiser les sociétés en courant après ce que nous impose la nature? Ou est-ce que les sociétés vont exploser parce qu'il y a des milieux qui vont trouver qu'ils sont maltraités, qu'à court terme, comme on dit, la fin de mois va-t-elle écraser la fin du monde? Je ne sais pas du tout quelle est la réponse à cette question. Alors, mais en tout cas, c'est une question qui devient absolument centrale. Et puis, une chose qu'on a appris aussi, qui est importante, c'est que quand on veut voir quelqu'un, depuis la guerre, on dépensait du pétrole. Voiture, train, avion, etc. Et bien maintenant, on a le véhicule numérique, qui est devenu le premier lien entre les hommes. Twitter, c'est 2006. C'est le début vraiment de la civilisation numérique. Avant, on avait un peu des ordinateurs, etc. Ce qui a permis, pendant la pandémie, aux sociétés de résister, c'est en fait la circulation du numérique dans les familles. C'est-à-dire que quand le gouvernement disait ça, ça circulait dans les familles, les papis, les mamies, les enfants, etc. Donc la diffusion, la pression familiale était considérable. Et du coup, vous prenez les deux Noëls qu'il y a eu pendant la pandémie, dans les pics. Il n'y a pas eu de pic de la maladie. Au contraire, les Noëls ont été des creux. C'est-à-dire que les gens se sont vus massivement dans les familles, mais en prenant des règles de sécurité maximum, d'ailleurs notamment les jeunes, qui ont été fantastiques. Mais du coup, le véhicule numérique est devenu le premier lien dans l'intrafamilial, dans la sphère du travail et dans la sphère du commerce. On est basculé dans une société de la livraison. 21 millions de gens sont clients d'Amazon, les grandes surfaces périurbaines, ça va disparaître. On va s'en servir de lieu de stockage. Le processus devant lequel on est, c'est une société de la livraison et du local. Donc là, on a un phénomène d'accélération. On n'a pas encore en France le ministère de la logistique. On n'est pas très rapide pour s'adapter. Il y a plein de pays qui ont déjà des ministères de la logistique. C'est 10% de l'emploi. L'essentiel des gilets jaunes, les leaders, c'était tous des chauffeurs, si vous regardez bien les CV des mecs. Parce que le cœur du lien social d'une société, c'est les transports. Avant, c'était la CGT Transport. Là, quand la CGT, SNCF et RATP s'arrêtaient, il n'y a plus rien. Maintenant, ils peuvent s'arrêter, tout le monde s'en fout. Par contre, effectivement, les gilets jaunes, c'est d'abord la révolte des chauffeurs. Et donc, si vous voulez, ça nous pose la question, parce qu'on n'a pas de pensée là-dessus. Et par exemple, dans les villes, on n'a pas interdit les livraisons avec des véhicules à explosion. Il n'y a que Monaco qui a imposé des heures où il y a une seule camionnette par jour et par rue qui livre. Moi, il arrive chez moi, là où j'habite, il y a 5-6 fois dans la journée, une camionnette énorme qui amène un petit paquet. Mais ça, cette régulation, cette organisation, et le fait que les livraisons soient faites uniquement par des véhicules électriques, c'est évidemment un enjeu absolument essentiel. C'est 20% des véhicules dans les villes, hein. C'est pas rien. Donc je veux dire, c'est un enjeu absolument essentiel. Mais surtout, c'est que le lien numérique a pris le pas sur les autres liens. Et ça, je crois que c'est définitif. Le grand concurrent de la voiture à explosion, c'est pas la voiture électrique, c'est le lien numérique. Faut pas se tromper. Plus il y a des liens numériques, plus il y a des livraisons. Parce que si une camionnette livre 10 familles, ça fait pas, au lieu d'avoir 10 voitures qui vont faire les courses, il y en a qu'une qui livre, ainsi de suite. Le modèle de la livraison est écologiquement très rationnel s'il est bien organisé. Donc, il y a tout ça. Je ne reviendrai pas sur le télescopage des générations, on l'a bien vu, mais si vous voulez, il faut faire attention, les jeunes vont devenir furax. Les jeunes vont devenir furax. Parce que 30% des jeunes filles déclarent qu'elles n'auront pas d'enfants. Elles le déclarent. Après, dans la vie sentimentale, on verra comment ça se passe. Jamais on a eu une génération qui avait l'idée qu'il ne fallait pas faire d'enfants à cause du climat. Et on voit bien les mouvements, ils sont faibles, mais on voit bien les étudiants des grandes écoles, on en a parlé. Chaque fois, on va dire c'est minoritaire. S'ils se permettent de le faire, c'est que les autres sont un peu d'accord. Donc, on est là face à une heure des générations où, effectivement, il faut d'ailleurs que les gens de ma génération, on plaide ce qu'on a réalisé. Parce qu'on a quand même augmenté la vie de 20 ans. Quand je suis né, on vivait 500 000 heures. Quand je vais disparaître, on vivra 700 000 heures. C'est le travail d'une génération. C'est la plus grande histoire dans l'histoire de l'humanité. C'est le plus grand allongement de l'espérance de vie, puisque, en gros, on avait augmenté 200 000 heures l'espérance de vie depuis Jésus-Christ. Hein, Jésus-Christ, on estimait à 300 000 heures, et en 45, on était à 500 000 heures. Vous voyez, on a mis du temps. Et nous, on est passé à 700 000 heures. Et la pandémie va faire accélérer l'allongement de la vie très vite, parce que l'ARN messager va permettre d'ouvrir des tas de champs vis-à-vis du paludisme, vis-à-vis du cancer, vis-à-vis du sida, etc., d'autres maladies. La médecine est complètement en train de le bouillonner. Elle va trouver des choses, donc la vie va s'allonger. Et donc on est à nouveau devant une nouvelle époque d'allongement de la vie, avec tous les problèmes que ça pose, personnes âgées, etc. Lien social dans les familles. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on a vu pendant cette pandémie? Ben, on a vu qu'il y avait trois groupes sociaux. Et c'est là où c'est compliqué, y compris les questions quand on dit si on ne peut pas faire de logement social, etc. Parce qu'au fond, on a vu pendant la pandémie, il y a les ouvriers, les paysans, on va dire. En gros, ils habitent à côté de leur lieu de production. L'essentiel des usines ont été reconstruites en bordure des métropoles, et l'essentiel des ouvriers habitent dans les maisons. Je vous rappelle qu'en France, 70% des gens habitent dans des maisons individuelles. Il y en a 16 millions pour 12 millions d'appartements. Et les 12 millions d'appartements possèdent 4 millions de résidences secondaires. Donc il faut avoir le modèle global dans la tête. 16 millions de maisons individuelles, dans lesquelles habitent 70% des Français, parce que c'est plutôt les familles. 12 millions d'appartements dans lesquels habitent effectivement 30% des Français, mais dedans il y a les étudiants, qui sont presque 4 millions, et qui, à Paris, vous avez 50% des logements occupés par des étudiants. C'est pour ça que la moitié des logements de Paris sont une personne seule. Paris, New York, c'est 60%. Il faut bien voir comment ça se passe. Les grandes métropoles deviennent d'abord des cités universitaires et des grandes zones touristiques. Donc, ça bouleverse. Donc, il y a trois groupes de population. Il y a les ouvriers et les paysans qui ont déjà une société du proche, très souvent. Ceux qui sont membres d'associations, ils vont au boulot, etc. Vous avez les gens qui ont travaillé tout le temps pendant la pandémie. Les livreurs, les gens des hôpitaux, le care, on va dire, et le service. Bon. Les pompiers, les chauffeurs, beaucoup, bien sûr. Eux, ils habitent loin de leur lieu de travail parce qu'ils sont mal payés. Eux, on ne peut pas leur dire « tu vas faire du télétravail ». Donc, eux, il faut leur dire « tu vas avoir priorité dans le logement social ». Il faut qu'on casse nos politiques du logement social. Il faut revenir à Jules Ferry et il faut dire « ces gens-là ont droit au logement social dans le quartier où ils travaillent, l'hôpital, la police, l'école, etc. ». Ça doit être la priorité des priorités, parce qu'il faut diminuer les trajets dans la ville et qu'on ne peut pas aller vers une société où il y en a qui vont avoir une culture de la proximité, celui du télétravail, qui veulent rapprocher le travail du domicile, les ouvriers et les paysans qui l'ont déjà, et les autres qui, eux, habitent loin et sont mal payés. Donc, eux, il faut leur donner un avantage qui va être, à mon avis, la priorité d'un logement social et de reprendre complètement notre politique du logement social uniquement sur des critères de revenus. Et puis, le troisième groupe, évidemment, c'est les télétravailleurs. En ce moment, ils sont 20%. Au pire de la pandémie, on était à 40%, et on peut sans doute, il y a des pays où on monte à 50-55%, au moins un jour par semaine. Donc c'est une vraie, ça va devenir l'élément changeant, central du monde du travail. D'une part, ça augmente la productivité, entre 5 et 10%. D'autre part, personne ne demande jamais d'heures supplémentaires. Je ne sais pas si ça renvoie au matelas, mais en tout cas, ça renvoie au fait qu'on n'est pas extrêmement clair sur quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on ne travaille pas. Et puis, effectivement, et la troisième chose, si vous voulez, c'est qu'effectivement, on gagne du temps et de l'argent puisqu'on a moins de frais de déplacement. Mais c'est compliqué à gérer dans les entreprises. Le management n'est pas simple du tout. Il faut garder une culture d'entreprise. Et c'est là où il faut créer un deuxième lieu de travail. Le télétravail, ce n'est pas à la maison, c'est à côté de la maison. Parce qu'on a besoin d'appartenir à un deuxième lieu, c'est le rôle des tiers-lieux, qui est un rôle absolument passionnant. Il y en a 2600 en France, il y en avait 1800 avant la crise. On va en créer partout, il faut en créer, souvent c'est privé. Moi, comme j'ai quelques intérêts en Bretagne, j'ai participé à la création d'un tiers-lieu à Pont-l'Abbé. C'est un succès extraordinaire. Au début, on était 10. Il y avait un hôtel qui ne marchait pas. On a dit, on va le racheter en commençant en rigolant. Puis après, on était 30. Maintenant, on est 150. On a tous mis 5000 euros. Avec 5000 euros à 150. Bon. Et on a des salariés, c'est plein tout le temps. Il y a des gens qui viennent travailler, il y a des réunions, des gens qui viennent manger. On va créer, c'est les nouvelles maisons du peuple, ça. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent travailler, des services publics, quelqu'un qui vienne vous faire vos papiers, etc., un fonctionnaire détaché, on mange, on se rend compte. C'est-à-dire, au fond, c'est un deuxième collectif de travail. Mais quel intérêt qu'on n'est pas dans la même entreprise. Donc on peut parler pognon, on peut parler... On n'a pas les mêmes discussions que dans une entreprise. Mais on a après des contacts, c'est toujours les mêmes. C'est des gens qui habitent à côté de nous, qui vont au même collège, qu'on voyait à la sortie du collège, on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Donc il faut faire attention, c'est vers ça qu'on va. Donc on est, si vous voulez, dans cette société de rupture où le télétravail modifie les rapports à l'espace, parce qu'évidemment, plus vous télétravaillez, plus vous habitez loin de la ville. Alors, comme déjà on avait 70% des gens des grandes villes qui voulaient les quitter, ben, seulement ils ne le faisaient pas. Et là, d'un coup, ils le font. Et donc, du coup, effectivement, on a ce dont parlait le maire, mais qui n'est pas d'abord vers les régions touristiques. La raison très simple, c'est qu'à Paris, on est payé plus qu'en province. Mais comme la charge logement est supérieure à la province, une fois qu'on a payé le loyer, on est moins riche qu'en province. Mais quand on se déplace, ah ben on est le riche du village, hein, parce qu'effectivement, on a son salaire parisien et le loyer de Tours, de Reims. Et du coup, ben on est le plus riche du quartier, avec les concurrences que ça crée pour les populations locales traditionnelles. Mais il faut bien voir comment ça se passe sur le territoire. Le monde moderne est bâti sur des métropoles. Les métropoles, il y en a 200 sur la planète. Nous, on a la grande métropole de l'Europe, on n'a pas encore bien compris notre truc, mais on a 11 millions de personnes en Ile-de-France, c'est la taille de New York. C'est la plus grande concentration scientifique au monde. Donc, si vous voulez, il ne faut pas penser Paris. Paris, c'est un petit machin qui s'agite beaucoup. Mais l'Île-de-France, c'est effectivement plus puissant que New York. Et donc, la question pour la France, c'est comment on fait de l'Île-de-France le New York de l'Europe, c'est-à-dire la grande métropole culturelle, scientifique, économique, etc. Et le départ de Londres nous arrange de ce point de vue-là, puisque Londres était notre concurrent, il n'est plus. Donc là, d'ailleurs, on voit bien, là, moi, je travaille à la Défense en ce moment, heureusement qu'il y a des entreprises anglaises qui viennent utiliser une partie des bâtiments, même s'il y a encore 30% de vacuité dans les tours, y compris parce qu'elles sont mal adaptées, y compris parce que l'espace est tellement absurde que plus on féminise l'emploi, ben les femmes ne veulent pas aller à la Défense. Parce que, excusez-moi, mais traverser le soir en hiver la place de la Défense, ben elles ont peur, c'est trop large. On ne voit pas l'autre côté quand on part. Excusez-moi, la nuit, le soir, à 9h du soir, donc on a un sentiment d'insécurité, surtout que la Défense, il y a dessus et dessous. Dessous, c'est moins chic que dessus. Hein. Donc, dessous, c'est quasiment un immense monde un peu ambigu. Bon, deux mondes qui n'aiment pas se rencontrer dans le noir. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une métropole. C'est un moment où la toile numérique rencontre les réseaux physiques. La toile numérique, c'est tout le monde, on va dire, aujourd'hui. Mais là, il y a des intellectuels, des financiers, des politiques et des grands entrepreneurs. Et donc, c'est un hub de carrefour entre le réel et le virtuel. C'est ça, une métropole. Il y en a 200, maximum. Et nous, on en a une vraie, Paris qui est la grande, on en a deux ou trois qui sont des vraies métropoles de taille mondiale, style ex-Marseille, 3 millions, avec Toulon, Lyon, qui marche mieux, mais qui est à peu près de même taille. On en a comme Toulouse, qui sont, je dirais pas du mal, après on en a des plus petites comme Nantes, tout ça, mais enfin qui sont, bon, qui se gonflent un peu, mais qui bon, sont quand même intéressantes, parce qu'elles se sont lancées dans cette bataille de ce rôle, même si elles ont peu de rôle de commandement économique en réalité. Mais elles sont, l'un des intérêts de Nantes, c'est que c'est pas loin de Paris, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a une métropole monde et on est à 2 heures. Et donc tout ça fonctionne en même temps. Bon. Et de l'autre côté, on a 30% de forêt et 53% de terres agricoles, qui sont la base d'une société écologique. On l'a dit, pour produire la biomasse, le vent, le soleil, etc. Donc la société écologique de demain sera appuyée sur les terres agricoles et les forêts. Les métropoles sont là, où habitent les Français, entre les deux. Les 16 millions de maisons et jardins qu'on a construits, on ne les a pas construits dans les métropoles, on les a construits autour. Avec deux territoires en crise urbanistique tragique, c'est l'Île-de-France et ce qu'il y a autour de Marseille. Pourquoi ? Parce que c'est des territoires qu'on a complètement transformés, complètement développés. Chaque maire fait sa politique. Il y en a un qui ne veut pas qu'on construise parce que c'est pour les riches. À côté, ils sont serrés comme des canards parce que c'est pour les pauvres. Le budget ne circule pas. Vous avez la Seine-Saint-Denis qui est à côté de Neuilly, excusez-moi. Je veux pas aller, mais enfin, je veux dire, on n'a jamais eu une société aussi inégalitaire. Alors c'est tout à fait curieux. Donc là, on a des zones de tension autour de Marseille, c'est pareil. Donc on va monter les extrémistes politiques, etc. Mais il n'y a pas de péréquation fiscale. Hein. Donc on est là dans deux territoires en crise violente. Et puis après, on a la question qu'il ne faut plus prendre de terres arables. Si on ne veut plus prendre de terres arables et qu'on peut plus, les gens ne veulent pas vivre en hauteur, quand 70% des gens vivent à l'horizontale, ils ont voté avec leurs pieds. Les gens veulent un jardin, un chien, un point d'eau, point barre. La tour, c'est bien si j'ai une deuxième maison. les immigrés ont souvent une deuxième maison. Faites très attention. Ne regardez pas l'immigré comme il a en Afrique, il a une maison où il peut prendre sa retraite. Donc il faut faire attention aussi à nos imaginaires. La deuxième maison, ce n'est pas forcément à la Bolle. Ça peut être dans les Aurès aussi. Donc, mais enfin, quand même, ils en ont un pourcentage, ils en ont moins que nous. Et donc, si vous voulez, c'est ça la société qui s'organise. La vraie question, c'est comment on va densifier le périurbain, y compris pour pouvoir plus faire du transport, etc. Mais aussi parce qu'il faut créer de la richesse dans le périurbain par la densification foncière, notamment des lotissements. Là, c'est là où il y a de la marge de construction énorme. Parce qu'aujourd'hui, on fait des lotissements 300 mètres carrés. Alors que les premiers lotissements, c'est 2500 mètres carrés. C'est pas à vous que je vais l'expliquer. Et il y a plein d'endroits où les règlements interdisent de reconstruire. Moi, j'ai proposé au président Hollande, je lui ai dit, autorise tous les gens qui sont dans le lotissement à transformer leur garage, à l'agrandir et à faire un petit appartement sans permis de construire. Il avait trouvé ça génial, mais quand vous dites ça à la direction de la construction, tout le monde, scandale absolu. Mais c'est ça la vraie question. La crise du logement, elle est dans le périurbain, dans son absence de densité. Regardez l'Île-de-France. Je ne sais pas si vous êtes allé vous balader en Île-de-France. C'est monstrueux. Il y a des endroits horribles, il y a d'un coup des endroits sympas, il y a des petits villages à l'ancienne. Et puis d'un coup, vous avez des lotissements immenses. Vous avez des caravanes qui servent à des activités assez explicites, d'ailleurs. Bon, vous êtes dans un territoire totalement incohérent. Et surtout, vous n'avez pas d'appartenance politique parce qu'on n'a pas redessiné les communes. Les gilets jaunes, pourquoi ils sont réunis sur les ronds-points? Et parce qu'un gilet jaune, c'est un type qui a acheté un terrain. En disant, moi j'ai fait une bonne affaire. Ils ont tous fait une bonne affaire. Donc ils ont un terrain pas cher à côté d'un rond-point, une heure de leur boulot. Bon, ça c'est le modèle, deux emplois, les dames se sont mises à travailler. Les mamans, 50% des mamans ne travaillaient pas. Aujourd'hui, 86% des femmes salariées. Donc les milieux populaires ont eu un deuxième salaire à financer la maison, etc. Vous le savez mieux que moi, vous êtes dans l'immobilier. Sauf qu'effectivement, ils ont acheté un terrain en fonction d'une distance à leur lieu de travail. Et ils se définissent comme des citoyens de l'extérieur. Ils disent, je suis à une heure de Paris, à une heure de Bordeaux. Mais on n'est pas citoyen de l'extérieur. C'est pour ça que dans mon bouquin, je propose, je me bats toujours pour ça, pour que les gens aient deux droits de vote. Un là où ils habitent et un là où ils travaillent. Vous croyez que Paris, il y a 2 millions d'habitants. Il y a 700 000 qui travaillent dans la ville. Il y a 1 million de gens qui ont un compte, un CDI dans la ville, qui rentrent tous les jours. Il y a 3 millions qui rentrent tous les jours dans la ville, mais ce n'est pas les mêmes. Mais qui décide des transports dans la ville? Ben, ceux qui habitent tout le temps. Ils sont mignons, mais nous, on ne va pas rentrer en bicyclette. Donc la ville est pensée pour ceux qui y dorment, c'est-à-dire ceux qui votent. Ben, s'ils continuent comme ça, leur avenir, c'est être morte. Donc il faut quand même faire attention à cette ville qu'on est en train de transformer de façon positive, mais qu'on étouffe dans ce qui fait une ville de le monde moderne. C'est un endroit où on n'habite pas et où on va régulièrement. Et ce rôle de la ville secondaire, la pandémie va énormément l'accélérer. Tiens, je regarde ma montre parce que j'ai vu que la dame, là, elle regarde sa montre aussi. Donc il faut que je regarde un petit peu. Il faut que je fasse attention. Non, mais voilà, c'est ça. Alors pour retenir de tout ça, on va dire une chose. On va vers une société du local. Mais ce n'est pas le retour aux sources. 50% des gens n'habitent pas dans leur département de naissance et 90% des gens ne meurent pas dans leur commune de naissance. Donc on est une société de mobilité, de flux, alors qu'on la mesure toujours comme des stocks. Non, entre deux élections, il y a plein de gens qui sont partis, il y en a plein qui sont morts, etc. On est une société de flux. Donc, mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est du local. C'est quoi? Ça veut dire que les gens qu'on voit à la sortie du collège, à la salle de sport, la mosquée, l'église, le tiers-lieu, la grand-place, le marché, c'est les mêmes. Comment on crée du lien avec ces gens-là pour se dire bonjour, etc. C'est ce que nos enfants connaissent, que les fêtes anniversaires, c'est ça en réalité. Et cette société du local, elle s'accroche à la société de la livraison. C'est un couple. Donc on veut la petite épicerie et la livraison avec la camionnette de Leclerc ou d'Hyper-U. C'est ce couple qui se met en place. Bon. Et c'est pareil dans le monde du travail, entre le tiers-lieu et le lieu principal, etc. Et avec l'idée que la grande ville, si vous voulez, elle a un peu deux ailes. Elle a l'aile populaire, c'est-à-dire les ouvriers, enfin les milieux populaires qui ont accès à la propriété privée, c'est l'aile gilet jaune, c'est ces petits lotissements. Et puis elle a l'air, on va dire, bobo, télétravailleur, qui eux vont vers la France patrimoniale, parce que la France qu'ils connaissent, c'est celle des résidences secondaires, c'est la Baule, c'est la vallée de la Loire, c'est le Luberon. Alors là, évidemment, ils ont ça, quand ils quittent la ville, c'est pour aller là. Il n'y en a pas un qui vous dit, moi je vais à Bondy Nord, hein. Je veux dire ça, ils ne savent même pas où c'est Bondy Nord. Donc ils ne risquent pas d'y aller. Et donc c'est deux France qui est en train de se mettre en place avec le problème qu'on a, c'est qu'il va falloir qu'on les rassemble, qu'on fasse du lien, parce que sinon la société est en train de se couper en morceaux. Donc on est vers ça. Et quand vous regardez le mot qui ressort de toutes les études après la pandémie, c'est le mot proche. Les gens se sont repliés sur la proximité sentimentale, on va dire la famille et les meilleurs amis. Résultat, le bonheur a augmenté. Avant la crise, 75% des Français étaient heureux. Après la crise, 80% des gens sont heureux. On s'est débarrassé des emmerdeurs, on va le dire comme ça. Le vieil oncle, le type de bureau, le mec qui vous fait le bisou tous les matins, pou, pou. Bon. Et puis, en même temps, effectivement, il y a beaucoup plus de gens qui ont pu travailler beaucoup chez eux, moins circuler, etc. Augmentation de la satisfaction des populations. Il ne faut pas se tromper. C'est une société du bonheur privé et du malheur public. Le malheur public, c'est l'instabilité politique, les crises identitaires, et puis le fait qu'il y a une muraille écologique et qu'on n'a pas l'impression qu'on est vraiment en train de la monter, de la franchir, de l'attaquer, même si on s'y met, mais on n'arrête pas de dire on va s'y mettre. Et reconnaissons, quand on écoute un chef d'entreprise, 80% c'est de la tchatche. Il repeint en vert ce qu'il a toujours fait. Il faut faire attention, parce que les jeunes, ils se tirent comme ça. Parce que ce qu'on veut en ce moment, c'est de la réalité. Donc, qu'est-ce que c'est pour dire ? Vous savez, depuis la guerre, on a été moderne. La France en 1939 et la France en 1945, c'était une France de mecs avec des bérets, qui n'avaient pas de savon. Et puis arrivaient des jeunes qui se baignaient tout nus dans les rivières, sportifs. Alors, il y en a qui étaient plutôt nazis, les autres étaient américains. Ce n'était pas du tout la même idéologie, je ne les mélange pas du tout. Mais pour des jeunes Français, ça a été une rupture terrible. Ils étaient modernes. Regardez les jeunes Allemands, fanatiques du sport, de la nature. Ils arrivaient, se mettaient tout nus, plongeaient dans toutes les rivières glaciales. Un Français n'aurait jamais fait ça. D'abord, nous, vous savez qu'on consomme le moins de savon. Je vous rappelle quand même que 20% des Français, on leur voit arrêter de se laver les dents en mettant les masques. Donc le rapport à la propreté... Non mais, excusez-moi, mais on est le pays le plus sale d'Europe. Je suis désolé de le dire, mais il faut le dire. Et ça remonte dès qu'on a une opportunité. Non, non, regardez les chiffres. Et donc, effectivement, depuis, on a fait une France du béton. Et vous y êtes pas pour rien. C'est-à-dire, on a construit, vous savez qu'on a construit 80 800 ronds-points. Les Allemands, 5 000. Les Américains, 10 000. Alors, ou ils sont tarés, ou beaucoup de nos ronds-points sont d'abord des œuvres politiques à la gloire du maire. On devrait mettre sa statue en maillot de bain. Et donc, si vous voulez, on est là, dans une société du béton, de la grande surface, les grands magasins, les HLM, la campagne de ces immenses barres de béton, maintenant c'est plus, très bien comment faire. On a modernisé par le béton Vinci, Bouygues, ces grands groupes qui ont fait un boulot fantastique, qui sont des producteurs de biens publics. Donc on en a besoin en Afrique de ces gens-là. Parce qu'en Afrique, il y a 2,5 milliards de gens. Dans 25 ans, il n'y a pas ces infrastructures. Donc on a les entreprises pour le faire. Mais cette modernité-là, elle est terminée. Les gens, ils veulent de l'esprit des lieux et de la technologie. C'est un nouveau couple. C'est ce téléphone portable qu'on a dans la poche, qui est absolument merveilleux, l'intelligence artificielle, etc. Et un endroit où je vois par la fenêtre un arbre, je vois du patrimoine. Alors, regardez Rennes. Alors maintenant, ils sont un peu bloqués par la politique de la ville archipel, mais c'était une des villes les plus en avance. Et donc, les gens, ils veulent quoi ? Des petites villes, 10, 20 000 à 100 000 habitants, où ils peuvent s'interconnaître et où, effectivement, il y a une ambiance particulière, l'esprit des lieux. Et donc, c'est vers ça qu'il faut aller. Et à chaque endroit, il faut se dire comment on renouvelle l'esprit des lieux. Bien sûr qu'on va commencer à démolir des ronds-points. Je pense qu'on va démolir au moins 30 000, arrêtez d'en construire. Je veux dire, parce que ça coûte un rond-point, c'est, vous savez bien, c'est entre quoi 300-400 000 et 1 million. Il y en a même qui vont au-dessus du million quand il y a un jardin qui s'arrose. Tout. Alors, les gosses jouent à côté sur du ciment et puis vous avez un magnifique jardin arrosé au milieu des voitures. C'est quand même extraordinaire. À Avignon, c'est fascinant, fascinant. Bon, je prends Avignon comme exemple pour me mettre loin de chez vous, c'est pas vous qui l'avez construit. Donc, si vous voulez, on est dans tous ces changements, on est là-dedans, et donc on rentre dans la société écologique, la guerre à la nature, que nous fait la nature. Et si vous voulez, cette guerre, c'est pas sûr qu'on va la gagner. Mais si on veut que les sociétés n'explosent pas, il faut donner le sentiment qu'on va y arriver, parce que sinon, les gens vont avoir peur. Et si vous voulez, c'est ça la vraie question qui nous est posée. C'est pas, il s'agit pas de repeindre en vert. Il s'agit de se dire, au fond, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène qui est que le climat va se déplacer, disons, de 500 km en 30 ans. C'est une des hypothèses. Bon, pour l'essentiel, il y aura aussi des à-coups. En gros, à Lille, il y aura le climat de Marseille. Et à Marseille, le climat d'Alger. Bon, moi je dis souvent, Alger, on s'est battu pour y rester, donc c'est que ça va être sympa. Donc finalement, le fait qu'on l'ait à Marseille, c'est pas dramatique. Bon, alors ça énerve un peu les pieds noirs, mais bon, ça permet quand même de poser les choses. Je veux dire, ça, il faut s'y préparer. Il faut réduire la taille des fenêtres, il faut verdir, comme vous l'avez dit, etc. Mais on a les codes culturels, puisqu'il faut aller chercher. Moi, je fais de la formation d'officiers de pompiers, ben, on les prend à Lille, les jeunes, et on les forme à Marseille. À Lille, ils n'ont jamais vu un incendie de forêt. Ils ne sont pas équipés, ils ne savent pas comment on fait, ils n'ont pas le matériel. Bon, mais ce n'est pas que ça. Les gens qui ont des coups de chaud. À Marseille, en 2003, quand il y a eu cette vague de chaleur, il n'y a pas eu de mortalité des personnes âgées en plus. Et parce que nous, on les arrose, nos vieux, sinon on n'en aurait plus. Ils sont, tous les gens qui sont morts, c'est au nord de la Loire. Parce que là, d'un coup, il a fait la chaleur du sud. Et les gens laissent les vieux l'été, on part en vacances, on laisse papy, garde le chien. Mais papy, le chien, il n'y a pas à boire, ni le chien, ni papy, ça sort. Donc, on est là sur ces bouleversements. Et vous regardez la carte des morts de 2003, c'est très, très net. Donc, il y a toute une culture, si vous voulez, de la chaleur qu'il faut diffuser dans les populations. Voilà. La question demain, c'est comment on passe, pour le dire pour vous, au fond, de se loger à habiter. Comment on va passer de se loger à habiter? C'est ça, au fond, la question des gens. Comment on passe de travailler à donner du sens à sa vie. Vous voyez, c'est un peu toujours là, c'est ces nuances. Et je trouve que se loger, habiter, ça résume bien le propos. C'est-à-dire, les gens, ils veulent habiter. Ils veulent habiter un territoire qui va leur sembler écologiquement possible. Ils vont voir la nature, ils vont voir le passé, ils vont voir leurs proches. Et puis peut-être, vous voyez, l'État pourrait faire un gros effort parce que les fonctionnaires, quand vous avez un enfant qui fait un concours, on vous l'envoie à 800 km. On ne demande pas s'il a des vieux parents, il faut qu'il s'occupe. Quand vous avez le parc HLM, est-ce qu'on a prévu dans tous les bâtiments des petits logements pour les personnes âgées, pour que tous les il y ait 10 appartements plus petits pour les couples de personnes âgées, qu'il y ait une infirmière tous les 10 appartements? Pas du tout. C'est ce que font les bourgeois. Les bourgeois, ben, qu'est-ce qu'on fait? On déplace nos vieux, nos femmes seules avec enfants, il y en a 1,5 million. Avec 2 millions d'enfants, c'est quand même 3,5 millions de personnes. Ben, chez les gens aisés, d'abord, elles ne restent pas seules longtemps parce que les codes culturels ne sont pas les mêmes, mais en plus, elles se rapprochent pour les solidarités intrafamiliales. La République ne connaît pas la famille. Il faut que la République découvre la famille. La proximité des fonctionnaires avec leurs parents, c'est essentiel. La proximité dans le logement social des générations, c'est essentiel. Parce que sinon, une société qui doit financer 30% de personnes âgées ne peut pas s'en sortir. Or, on y est presque. Vous êtes jeune, là. Mais moi, qui suis retraité depuis tellement longtemps, je peux commencer à vous en parler. Et puis, je travaille toujours avec mon ami Edgar Morin. Il a 102 ans, mais enfin, il fatigue un peu. Donc, il faut mettre tout ça un peu dans nos projets. Merci.
Merci. Merci beaucoup, Jean. On reste ensemble, ne partez pas. Heureusement, vous avez les livres, hein, pour aller plus loin, parce que là, ça a été vite. Hein.
Mais c'est le résumé que j'ai fait.
Ah oui, c'est ça.
C'est le résumé du livre d'après, c'est ça le problème. C'est
mais vous avez un coup d'avance, mais j'espère que vous avez pris des notes. Vous avez certainement des questions, des commentaires, des réactions. C'est maintenant, on prend quelques minutes pour le faire. Il vous suffit de lever la main pour qu'on puisse vous identifier, et on court vers vous. Pas simple, hein. Ah, super. On a un courageux au premier rang, Jean-Claude Pelter, maire de Pornichet.
Monsieur le maire. Faites attention, j'ai été élu local aussi dans mes différentes vies.
Ça fout la pression pour les questions. Jean, attention. On vous écoute.
Je suis désolé.
Le micro, ouais, allez-y, ça va. La régie va augmenter. Ça y est, c'est bon.
Bon, je suis désolé, mon intervention ne va pas être de votre niveau. Mais quand même, parce que moi, je suis un maire local. Mes difficultés sont locales. Aujourd'hui, une commune de 11 000 habitants, bon, qui est proche de la Baule, on partage beaucoup de choses avec Franck Louvrier, mais on a une équation qui nous arrive sur la tête qu'on ne saura pas résoudre.
D'accord.
Il n'y a aucune personne aujourd'hui sur ce territoire qui est climato-sceptique. C'est pas vrai. Il n'y a aucune personne sur ce territoire qui ne veut pas aider l'agriculteur et faire du local. Aucune. Il n'y a aucune personne sur ce territoire qui ne veut pas que les jeunes puissent accéder au logement. Aucune. Mais quel est notre problème? Nous, on est sur un territoire, Franck l'a dit tout à l'heure, il y a Marais Salant, il y a le Marais de la Brière, il y a la Loire, il y a l'océan. Il y a des zones, on a le PPRL, zone inondable, vous avez vu ce qui s'est passé en Vendée. On a des zones, on a des règles d'urbanisme extrêmement contraintes. Et puis aussi, on a beaucoup d'industries, pas très loin. Et ces industries-là, elles sont dans des zones de Céveso. Et on a un territoire en même temps qui attire. Alors ici, comme il y a pas mal de promoteurs et des gens de l'immobilier, enfin, il faut voir ce que je constate depuis 6 mois. Des maisons, des appartements qui ne se visitent pas.
Je sais, ils se vendent avant même.
Qui sont vendus 30% au-dessus du prix.
Oui,
je me fais, en tant que maire de Pornichet, des fois je me fais un petit truc et puis je dis, tiens, comme je signe toutes les DIA, je vais voir. Et je vois des maisons, mais enfin c'est inimaginable. Les gens, ils se font avoir. Les appartements, les gens se font avoir. Et quel est notre problème? Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Et il nous tombe quelque chose, et c'est là que je voulais intervenir. L'État, il descend quelque chose, sans connaître le territoire, sans connaître les particularités du territoire. Ce qui est applicable sur notre territoire n'est pas applicable en Corrèze, ou n'est pas applicable je ne sais pas où, mais ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Or, c'est quelque chose, la ZAN nous descend dessus comme ça, mais moi, je vous le dis très clairement, on ne saura pas faire. Alors, quelle est ma possibilité? Moi, j'ai qu'un levier. Et je le dis ici, comme il y a pas mal de promoteurs et de bailleurs sociaux, moi, le bailleur social qui vient me voir aujourd'hui et qui ne me propose pas de BRS, il retourne chez lui tout de suite. Vous connaissez le principe du BRS? Moi, c'est ma seule solution. C'est la seule solution. Il faut que j'ai un bailleur social qui achète un terrain avec un bail antiphéotique et que le gène puisse s'installer. Parce que moi, j'ai que 8% de logement social. Quand je suis arrivé en 2014, j'en avais 5. J'en ai fait 8. Le préfet, qu'est-ce qu'il me demande ? 100% de logements sociaux. Tout ce que je dois construire doit être du logement social. Mais ça n'est pas possible sur notre territoire. Voilà. Ah, c'est un petit coup de gueule.
Oui, mais ça fait, est-ce que ça fait du bien ? C'est important de libérer.
J'entends ce que vous dites. Moi, j'habite dans des communes du Luberon. Je vous dis, les problèmes ne sont pas extrêmement différents. Bon. En plus, nous, on a le vignoble qui augmente. Donc, le prix de la vigne augmente. Donc, du coup, ça protège les terres agricoles, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais du coup, bon, il n'y a plus effectivement énormément d'espace. Vous avez raison. On pourrait revenir sur pourquoi on n'a pas fait de logement social depuis 50 ans dans ces communes touristiques. C'est un autre débat. D'ailleurs, un des problèmes pires des communes touristiques, c'est le logement des saisonniers. Et une des questions qu'on a maintenant pour trouver les saisonniers, c'est que c'est très bien de les faire dormir à quatre dans une cave. Vous savez que le taux de diffusion du sida, il est d'abord chez les saisonniers du tourisme. Tellement on les fait traiter dans des conditions d'hébergement catastrophiques. C'est assez logique, parce qu'une chambre qui se loue, elle rapporte, un saisonnier ne rapporte rien. Donc on le met plutôt à la cave que dans la chambre. Bon, je schématise le modèle, et je suis un peu dur, mais c'est vrai que ces territoires-là n'ont pas anticipé ces questions. Bon. Et notamment des saisonniers, parce qu'il y a fait longtemps, je me rappelle le rapport Fitterman. Fitterman était ministre quand c'était en 84, 85. C'est lui qui avait fait le rapport, effectivement, sur le sida dans les stations de ski et de bord de mer. Comme c'était les points de fixation, on voyait irradier le sida de ces deux endroits. Bon, maintenant, ça s'est un peu, grâce à Dieu, ralenti. Bon, c'est pour dire, je suis d'accord avec vous. La question, il y a deux questions. Il y a de faire des règles, et puis après, comment on les décline par territoire. Et c'est vrai que dans les stations hyper saturées, c'est pareil sur la Côte d'Azur. On a consommé tout l'espace. Et puis après, on dit, ah ouais, mais c'est embêtant, il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus de femmes de ménage, il n'y a plus de gardiens, comment on fait ? On dit, mais chérie, c'est vous qui avez construit partout. Hein ? Bon, où est-ce qu'on met les... Parce qu'une communauté, c'est de la diversité. Une société qui marche, c'est de l'hybridité. Il faut pouvoir quelqu'un qui gagne 1500 euros, il faut qu'il puisse vivre, et puis quelqu'un qui gagne 50 000 aussi. Mais si on veut qu'il y ait deux, s'il n'y a que des gens à 50 000, il n'y a plus de femmes de ménage, il n'y a plus d'instituteurs, il n'y a plus. Etc. Bon, il n'y a plus de barman, il n'y a plus. Etc. Donc, on a créé des territoires qui sont tellement segmentés. Effectivement, c'est hyper compliqué. J'entends bien ce que vous dites. Hein. Mais si vous voulez, il ne faut pas les prendre comme exemple. Mais je comprends que là, il faut les traiter d'une autre manière. Comment il faut les traiter ? Honnêtement, j'en sais rien. Après, dans mes communes, moi, du Luberon, que je connais depuis, hein, puisque j'y habite depuis 50 ans, comment on a fait ? Ben, on a truandé. En gros, chaque fois qu'on fait un truc, à la fin, on garde un bout de terrain, qu'après, on refile à des gens qu'on connaît. Il y a du bricolage de bordure, on va dire. Bon, parce que c'est vrai qu'un gosse du pays, il a le droit d'avoir une maison. Même si ce n'est pas écrit dans la loi, parce qu'un gosse du pays, ce n'est pas un statut juridique dans une société démocratique. Enfin, on sait tous que ça existe. Bon. Donc, si vous voulez, il y a tous ces processus-là. Et il y a toute la question, effectivement, des densités. C'est pour ça que j'avais proposé au président Hollande que chaque maison puisse transformer son garage en studio pour loger des jeunes, etc. Honnêtement, dans le sud, on l'a déjà fait dans la plupart des maisons sans permis. Donc nous, ça ne nous empêche pas de dormir. Mais ici, je pense que vous respectez un peu plus les réglementations. Voilà. Non, mais on est sur toutes ces questions. Mais il y a aussi dans l'autre sens, si vous voulez. Prenez la ville de Nantes. Moi, je vois bien ça dans le sud. Ou prenez Toulon, par exemple. C'est saturé. Oui, mais pourquoi il n'y a pas un transport rapide pour la Draguignan ? Draguignan est une ville charmante. Ça pourrait être à 20 minutes. Mais on ne fait pas le transport. On dit qu'il n'y a pas assez de flux. Non, il n'y a pas assez de putes parce qu'il n'y a pas de transport. Mais si vous commencez par faire le transport, la ville de Draguignan, qui est magnifique, elle est juste appuyée. Et du coup, on serait à un quart d'heure, 20 minutes du centre de Toulon. On irait plus vite que dans la banlieue. On a le même problème sur Marseille. Ex-Marseille, il n'y a pas de train en deux sens. Il y a une voie à un seul sens, entre, à l'intérieur d'une métropole, 3 millions de personnes. Après, on dit ça ne marche pas. Ben oui, ben, vous voyez, les bras vous en tombent. Donc, les problèmes sont différents suivant les lieux. Mais si vous voulez, il faut effectivement... Après, je ne vais pas faire un diagnostic sur votre commune, je comprends très bien votre problème et la boule aussi. C'est le problème de la diffusion des populations. Il y a aussi une autre question, c'est l'utilisation du patrimoine ancien. On est dans une période de réutilisation. 30% des vêtements qui s'achètent sont de la réutilisation. C'est de plus sur les voitures, ça va être vrai. D'ailleurs, le jour où j'ai dit ça au PDG de Renault, je lui ai dit peut-être l'avenir, c'est Cuba. Il m'a regardé, ah, mais pas de catastrophe, parce que peut-être qu'on va garder nos voitures 40 ans. Et que finalement, on ne va plus leur en acheter des voitures, on va les réparer, et puis voilà, hein, ce serait bien embêté. Mais c'est pareil, dire comment il y a 600 000 logements anciens qui ne sont pas utilisés dans ce pays. Comment on va effectivement les transformer ? Comment, je crois que me promener, mais même là, dans le quartier, il y a des maisons pourries, alors que c'est un quartier de luxe, évidemment. D'ailleurs, vous voyez très bien, le soir, je regardais hier soir qui rentrait, on voyait bien que c'était des saisonniers. Bon. Donc, il faut métisser nos sociétés. Moi, c'est la seule chose que je peux dire, si vous voulez. Et je suis d'accord que les normes d'État sont un peu absurdes, mais il faut peut-être les penser au niveau de la métropole. Vous voyez, je veux dire, prenez Marseille. Marseille, il y a la norme. Le pourcentage est atteint. Mais ce n'est pas vrai. On a mis tous les milieux populaires dans le même quartier. Après, vous voyez, il y a le quartier nord, ça ne marche pas. C'est sûr, il y a 90% de HLM. Et ailleurs, il n'y en a pas. Ben non, c'est la question, c'est l'homogénéité complexe du territoire. Après, on dit, ouais, il y a beaucoup de dealers. Heureusement qu'il y a des dealers, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Bon. Donc si vous dites, non mais attendez, l'économie de la drogue c'est 3 milliards, hein, le hashish, il faut quand même être clair. C'est l'économie qui fait une grande partie des partis populaires. Je suis d'accord qu'on pourrait proposer autre chose, mais comme l'Allemagne va rendre la drogue autorisée à partir de l'année prochaine, l'Espagne et l'Italie aussi, bon, vous voyez pas, ça me semble un combat perdu d'avance, il vaudrait bien mieux récupérer l'économie de la drogue dans les quartiers. Je ferme ma parenthèse, c'est un peu disruptif comme propos. Madame.
Bon, alors on a le temps de prendre une dernière question ou un coup de gueule, n'hésitez pas. Je vois une main levée au fond. On vient vers vous. Désolé, ça passe trop vite. Ah, bon, bah alors on va prendre les deux. Bonjour. On vous écoute. N'hésitez pas à vous présenter.
Bonjour, je suis Flore Portejoie, je travaille pour une société de co-living. J'avais une question, c'était quelle est votre vision sur le rapport à la propriété dans notre société ?
À la propriété ?
Oui.
Alors, ce que me dit Monsieur le maire est tout à fait juste. Je pense qu'il faut arriver souvent à un modèle où, effectivement, le propriétaire de la maison ne possède pas le terrain. Je pense que c'est un modèle extrêmement intéressant qui se développe. Au départ, d'ailleurs, c'est souvent parti vers le Lille, dans ces régions du Nord, qui ont des cultures de la solidarité extrêmement intéressantes. Et je pense que c'est un modèle intéressant. C'est-à-dire, en gros, vous achetez un terrain pour toute votre vie. Vous n'achetez pas le terrain, justement. Vous construisez une maison et le processus, c'est que toute votre vie, vous la gardez. Si vous partez, vous la louez. Mais effectivement, elle ne se transmet pas. Il y a toute une réflexion, ça diminue à peu près par deux, en fait, la valeur des choses.
C'est un jeune couple qui peut racheter la maison.
Oui, enfin, il y a un jeune couple qui peut racheter ça. Il y a différents modèles. Enfin bon, donc là, il y a une vraie réflexion. Je vais vous dire une chose, c'est la même question dans les terres agricoles. Parce qu'on avait 4 millions de fermes. On est à 370 000. En gros, qu'est-ce qui se passait ? Ben, systématiquement, on avait une cousine, clac, on avait une sœur, clac, on avait un frère un peu moins rapide, clac, et puis à la fin, on a grandi. Les familles se sont mangées, en fait, elles-mêmes, bien souvent, avec des conflits familiaux très difficiles. Parce qu'il y a ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, et 55% des terres agricoles sont tenues en société. Société un peu bidon, parce qu'en gros, on t'a payé les études à la fac et tu mets les terres dans la propriété. C'est quand même souvent un peu ça. Et donc, si vous voulez, là, c'est la même chose. Je pense qu'une bonne partie de ces terres doivent être reprises par des offices fonciers régionaux et que ça donne des viagers aux gens. On te dit, attends, voilà, tu vas avoir 2000 euros de viager par mois jusqu'à la fin de ta vie, plus ta retraite, et du coup, tu vis bien. Et puis après, ça devient bien qu'on installe des jeunes dessus. Et du coup, on peut faire des exploitations plus petites, plus technologiques, parce que l'avenir n'est pas aux très grandes exploitations. Je ne crois pas, sauf dans certaines matières. C'est pour ça qu'il ne faut pas être, encore une fois. Regardez ce qui se passe en ce moment. Le bio recule, le local augmente. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens ? Ils veulent des trucs produits par un mec qu'ils connaissent. C'est con, mais ils veulent que ça vienne de là. Et toute la question, c'est comment on organise ces chaînes de proximité ? Comment les déchets des fermes seront utilisés pour produire de l'énergie ? Comment il y a un industriel d'énergie qui s'installe à côté pour récupérer les déchets, etc. C'est ces chaînes locales qui sont en train de restructurer les sociétés. Ça ne fera pas toute l'économie. Le café ne viendra jamais de la bolle. Donc on aura des chaînes de compétences, on aura des chaînes de matières premières, etc. Mais une grande partie de l'économie va revenir de cette économie de voisinage. C'est tout simplement le fait de remettre l'énergie dans le territoire. Au fond, le pétrole, le charbon, on fait que l'énergie, on a récupéré les terres pour faire autre chose. Bon. Donc là-dessus, moi je pense que le foncier agricole, il faut ouvrir cette opportunité, pas obligatoire si les gens veulent garder dans la famille, bien sûr, mais de récupérer. D'ailleurs, c'est un peu ce que fait Groupama, parce que le fonds de pension de Groupama est extrêmement intelligent. Et moi, je travaille pour eux, donc je vois bien comment ils fonctionnent. Et vous savez, quand on a créé la Défense, Groupama a acheté des tours entières. Ils ont 8 milliards de patrimoine. Pourquoi ? Ben parce qu'ils se sont dit, l'avenir de l'agriculture, c'est que pour les paysans. L'avenir de l'agriculture, c'est une chose. Mais nous, où est-ce qu'on va mettre notre argent des fonds de pension pour les retraites de nos agriculteurs ? Ailleurs. À la Défense et dans les forêts. La forêt, c'est le vieux truc du long terme, monarchique. Et la Défense, alors maintenant, ils ont bien arrêté, parce que la Défense, 30% de sous-utilisation. Donc, mais ils ont quand même un patrimoine absolument essentiel. Donc il faut décaler comme ça. Et je pense, si vous voulez, qu'il faut aller vers ce genre de réflexion. Y compris, vous avez une autre question qui est compliquée. C'est que dans ces zones où les choses valent tellement cher, on ne peut plus les garder dans les familles. Vous voyez, la question de la transmission, c'est très compliqué. On hérite en moyenne à 63 ans. On est grands-parents à 53 ans, on hérite à 63 ans. Donc nous, on est une société d'héritage à la retraite. Avant, on héritait à 40 ans. C'est au milieu de la vie. En gros, on pouvait redémarrer, on héritait. Aujourd'hui, pourquoi les enfants ne travaillent plus avec leurs parents ? Excusez-moi, si vos parents s'arrêtent quand vous avez 63 ans, c'est-à-dire toute votre vie, vous êtes avec votre père ou votre mère. Bon, c'est sympa un moment, mais je veux dire, même en agriculture, bon. Donc, c'est pour ça que les transmissions sont beaucoup plus compliquées. Et donc, on hérite au moment de la retraite. Il faut quel est l'intérêt d'hériter, je veux dire, d'un point de vue économique, il n'y en a pas, puisqu'on a fait sa vie. On a souvent déjà sa maison, sa retraite, etc. Ça permet d'avoir des rentes, de retraite, c'est pas négatif. Et on le dit jamais dans les retraites. Quand on parle de l'âge de la retraite, on dit jamais le nombre de Français qui, en fait, vont avoir des loyers à côté. Parce qu'en France, on s'est maintenu. Heureusement que la grande partie des retraités ont des loyers. Parce que sinon, on comprend pas comment ils vivent. Alors, il y en a qui les ont pas. On ferait mieux de séparer les deux groupes, ceux qui les ont et ceux qui les ont. construisons pas, on aurait une situation réelle de niveau de vie des gens. Bon. Donc voilà, ouais, je crois que sur toutes ces questions, si vous voulez, c'est comme ça petit à petit qu'il va falloir réfléchir. Et c'est vrai que c'est compliqué, cette hausse des prix. Enfin, c'est la blague classique sur l'île de Ré, quoi, où effectivement, du coup, les maisons de famille sont obligées d'être vendues au moment des successions, ce qui est compliqué pour les familles, parce que le propre d'une maison de famille, c'est comme on la possède, on s'en occupe en plus, mais c'est un lieu symbolique puissant, mais c'est aussi en train de disparaître, et elle quitte, y compris à être achetée par des étrangers qui ont plus de sous, etc. Bon, les oligarques russes sur la Côte d'Azur. Ici, peut-être, vous n'avez pas encore d'oligarques russes. Mais vous, vous allez beaucoup avoir des oligarques du golfe du pétrole. Il y a déjà beaucoup de gens qui viennent d'Arabie Saoudite, de Dubaï, etc. Parce que vous avez l'avantage d'avoir frais et la pluie. Ce que l'Irlande a valorisé, vous le considérez comme un péché. Mais l'Irlande a su dire, regardez comme notre climat est génial. Ils ont lâché des ânes dans la nature. Ils ont dit, regardez comme il fait beau. C'est le même climat que chez vous. Donc, il y a aussi l'imaginaire des territoires qui joue dans les flux. Et on voit bien comment, avec le golfe, vous avez la Bretagne, un avenir. Il faudrait rester raisonnable quand même.
Merci beaucoup. C'est très frustrant, mais je suis obligée de couper. Jean Viard, merci. Je crois qu'on peut dire qu'on est bien immergé au cœur du sujet. Voilà, bien, les deux pieds et les deux mains à l'intérieur. On va continuer.